Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Il a appris officiellement sa sélection pour les Jeux cette semaine. Maxime Beaumont, le kayakiste français, est l'invité de notre magazine olympique. Bonjour Maxime et merci de passer nous faire un petit coucou dans l'Intégral Sport.
Bonjour.
Maxime, je le disais à l'instant, la bonne nouvelle, elle est tombée cette semaine. Tu disputeras bien les Jeux cet été. Ce seront les quatrièmes pour toi. Alors, pour tous les athlètes français, par facilité, on parle évidemment de Jeux à domicile. Mais pour toi, c'est vraiment, vraiment des Jeux à la maison.
Ben, tout à fait, ouais. J'ai appris ça dans la semaine, mercredi. Vers-sur-Marne, c'est là où vont se dérouler les épreuves. Et c'est un bassin que je connais très bien, puisque c'est mon centre d'entraînement. Depuis plusieurs années. Alors bon, cette année, j'étais pas forcément au quotidien, mais en tout cas, je connais très très bien le site et ça fait plaisir de pouvoir concourir à la maison.
Félicitations à Maxime Beaumont qui se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris. Une fierté pour tout le territoire. Est-ce que tu sais qui a écrit ça sur les réseaux sociaux cette semaine ?
Non, j'avoue que...
C'est Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, sur son compte Facebook, qui s'est évidemment félicité que l'un des enfants de la ville représente les couleurs pour les Jeux. Maxime, les places étaient chères hein, dans cette équipe de sprint. Il n'y en a que 6, 3 hommes, 3 femmes. Est-ce que tu as eu peur, tout simplement, de ne pas en être ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est tout un processus complexe pour aller aux Jeux, parce que les places sont chères. Et j'ai tenté ma chance en 4 places, j'ai tenté ma chance en biplace, et ce n'est que seulement sur ma dernière chance en monoplace que j'ai réussi à avoir le quota, donc enfin la place en tout cas, et du coup voilà, c'était ma dernière chance. Donc c'était très disputé. Il y a même eu des petits couacs dans le mode de sélection.
Quel couac assez...
En fait, il y a eu une mauvaise interprétation, je dirais, ou une mauvaise communication entre les dirigeants et les athlètes qui a fait que ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était un peu compliqué à gérer. Et voilà.
Bon, tout est bien qui finit bien pour cette qualification. On parle d'équipe de. Je parlais des 6 places dans l'équipe de France de sprint de canoë-kayak. J'ai une question qui va te paraître peut-être un petit peu simpliste, mais qui peut-être intéresse certains de nos auditeurs, peu au fait de la chose canoë-kayiste. Toi, tu fais du kayak. Quelle est la différence avec le canoë, tout simplement ?
Ah, ouais, c'est tout simple. En fait, le kayak, on navigue assis et on pagaie des deux côtés. Et le canoë, on est à genoux et on pagaie que d'un seul côté.
D'accord, voilà, c'est aussi simple que ça. Tu seras aligné sur l'épreuve individuelle du 1000 mètres, alors que tu avais été médaillé d'argent en 2016 à Rio sur celle du 200 mètres. Le changement de distance, il accompagne quoi, la longévité d'une carrière ? C'est une évolution logique ?
Excusez-moi, vous pouvez répéter la question ?
Non, je disais que tu seras aligné donc sur l'épreuve individuelle du 1000 mètres. Tu avais été médaillé d'argent en 2016 à Rio sur celle du 200 mètres. Pourquoi avoir changé de distance ? Est-ce que je te demandais si c'est finalement une évolution naturelle pour accompagner la longévité de ta carrière ?
C'est une façon d'exiger de me dire que je suis vieux et que j'ai changé de...
Non. Non, mais effectivement, il y a quand même une sacrée différence de distance. On rappelle que c'est quand même le premier arrivé au bout. Donc oui, naturellement, forcément. Peut-être qu'il y a un peu moins d'explosivité à 42 ans, ton âge actuel, qu'il y a quelques années.
Bien sûr. Non, honnêtement, je ressens bien je ressens bien l'âge. Mais là, c'était plus un choix obligatoire, puisque le 200 mètres n'est plus une distance olympique. C'est Tokyo, c'était la dernière Olympiade sur 200 mètres.
Ouais.
Et donc les épreuves ont évolué et en monoplace, il n'y a que le 1000 mètres. Donc dans un premier temps, j'ai été sur le 500 mètres en 4 places parce que c'était l'effort qui ressemblait le plus au mien. Ensuite en biplace et finalement monoplace 1000, mais c'est celui-là pour le coup, il y a 3 minutes de plus d'effort que en sprint. On passe de 35 secondes à 3 minutes 30. Donc voilà, c'est plutôt un grand écart et la préparation elle est pas du tout la même. Donc là, sans l'avoir préparé de manière drastique, je m'en suis plutôt bien sorti à la Coupe du Monde en accédant à la finale. Mmh. Donc j'ai bon espoir pour la suite avec une préparation spécifique pour dans 2 mois.
Maxime Beaumont, le kayakiste français médaillé d'argent en 2016 à Rio, qualifié à Paris pour ses 4e Jeux Olympiques, est notre invité dans En route pour Paris 2024, votre magazine olympique. Maxime, tu l'as évoqué un petit peu du bout des lèvres tout à l'heure, ce petit imbroglio avec la fédération française. Raconte-nous un petit peu. On s'intéresse aux sportifs dans la lumière, aux Jeux. Ça a été un petit peu la croix et la bannière hein, pour se qualifier. Raconte-nous un peu les coulisses de cette préparation que tu as dû assumer par moment tout seul, voire à tes frais.
En début d'année, la fédération a fait un choix stratégique de dire bon, bah, les kayakistes hommes, vous vous débrouillez par vos propres moyens et la fédération met ses moyens sur les personnes déjà sélectionnées aux Jeux Olympiques. On l'a appris très tardivement et c'est ça qui nous a mis un peu dans la difficulté. Pour autant, j'ai mis en place grâce à mes partenaires des moyens qui ont fait que j'ai pu me préparer tout l'hiver, partir en stage au chaud parce que bon, faire du kayak l'hiver dans le nord c'est compliqué. Donc au chaud et puis j'ai eu de la chance aussi d'avoir un écosystème qui m'aide vraiment bien dans tout ça. Ensuite, là, concernant les sélections nationales, il y a eu un petit souci, c'est que il y a eu des règles annoncées en cet hiver. Et ces règles, en fait, elles ont été refusées par les organes qui valident les modes de sélection. Mmh. Sauf qu'en fait, cette information-là, elle n'est pas redescendue aux athlètes. Donc, les athlètes sont restés sur ce qui avait été annoncé. Et puis, en fait, ils ont appliqué le mode de sélection à la lettre. Sauf que ce n'était pas ce qui avait été annoncé, et d'où la polémique qu'il y a en ce moment. La fédération, elle, a fait que appliquer, hein, mais c'est juste qu'elle a oublié de nous dire, ou en tout cas, elle nous l'a... En tout cas, l'information est mal redescendue au niveau des athlètes. Et du coup, les athlètes, c'est l'incompréhension à ce niveau-là. Quoi.
Bon, ça va, le groupe de la fédération vit bien, comme on dit dans d'autres, dans d'autres domaines.
C'est un peu compliqué quand on n'est pas dedans, mais c'est la vie pour les autres athlètes.
Voilà, d'où le fait de savourer d'ores et déjà la participation aux Jeux et sans aller jusqu'à reprendre les mots célèbres du baron de Coubertin. À 42 ans, même si tu le rappelais, tu as changé de distance, est-ce que tu vises encore une médaille, une victoire aux Jeux? Quels seront tes objectifs cet été? Quels seront les adversaires les plus durs à battre?
Moi, c'est sûr que je vais pas. Les Jeux, je connais, donc j'ai pas envie d'y aller juste pour y participer. Ouais. Même si la phrase est belle, mais moi, je veux y aller pour performer. Bien sûr, c'est à la maison, donc il y a aussi un petit truc spécial hein, et que j'avais envie de vivre. Mais l'objectif principal, c'est quand même d'aller en finale et tenter de gagner une médaille. Les adversaires principaux, ça va être les Hongrois, le Portugais, les Allemands. Ça, c'est des nations qui sont très très fortes sur le K1000 et on sait qu'ils sont là. Donc maintenant je vais me préparer. Il me reste 2 mois pour me préparer vraiment de manière spécifique et puis pouvoir jouer avec les les gros.
Maxime Beaumont, kayakiste français qualifié cet été pour ses 4e Jeux Olympiques, et notre invité dans, en route pour Paris 2024. Dernière petite question, Maxime, avant de te libérer. La préparation, elle se poursuit avec les championnats d'Europe en Hongrie à la mi-juin. Nous, on aime bien, dans ce petit rendez-vous avec les athlètes, rentrer dans les coulisses de la préparation. C'est quoi ton petit truc à toi en préparation? Est-ce que t'es plutôt Netflix, plutôt Spotify? On écoute de la musique, on s'isole, on voit les copains, au contraire la famille, avant de rentrer dans sa bulle. C'est quoi ta recette?
Moi, c'est plutôt Netflix. Ouais. Et après, au niveau des jeux, je suis plutôt à rester avec l'équipe, avec le staff, avec les gars de l'équipe. Et j'aime bien un petit peu dédramatiser. Enfin, j'aime bien rire, faire des blagues, dédramatiser un petit peu l'enjeu qu'il y a autour des jeux. Et ça me met dans des bonnes conditions pour embarquer. Et ensuite, j'ai les 20 minutes, les 20 minutes sur l'eau pour pouvoir bien me concentrer et être présent sur la course.
Bon, un petit conseil série là pour ceux qui ne savent pas quoi regarder.
Comment ?
Un petit conseil série pour ceux qui ne savent pas quoi regarder.
Oula. là, je ne sais pas trop.
Non, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Bon, écoute. Bon, mais merci en tout cas, Maxime Beaumont, d'être passé par l'Intégral Sport dans En route pour Paris 2024. RMC Radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. On continuera évidemment à suivre ta préparation jusqu'aux épreuves cet été qu'on vivra en direct. Je vous recommande à ce titre-là les commentaires de Aurélien Tiercin pour le sprint en kayak. Ça vaut son pesant d'émotion. Merci beaucoup Maxime, et à très bientôt sur l'antenne de RMC.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
À 13h25, vous êtes bien sûr RMC, on est ensemble en direct jusqu'à 15h. On poursuit notre détour hebdomadaire vers Paris 2024, les dernières infos du monde olympique et paralympique, tout ce que vous avez peut-être manqué cette semaine, session de rattrapage ou de mise à niveau avec Léna Marjac, notre spécialiste olympique de la rédaction RMC Sport. Salut Léna.
Salut Simon, salut à tous.
On débute avec du judo, les mondiaux à Abu Dhabi, sans Teddy Riner.
Oui, sans Teddy Riner, mais quand même avec une belle équipe de France. Et aujourd'hui, c'est justement l'entrée en lice de deux Français qualifiés pour les Jeux Olympiques. Chez les femmes, Amandine Bouchard en moins de 52 kilos et Lucas Meredze en moins de 60 kilos. On retrouve d'ailleurs sur place à Abu Dhabi Morgane Maury. Et Morgane, alors tout va bien pour Amandine Bouchard, et je crois qu'elle est même sur le tatami devant toi.
Oui, sa demi-finale, ça, l'Italie. Odette Jouf, la double médaille olympique, médaillé mondial, vient de commencer. 25 secondes dans ce... Bouchard qui quête sa première finale mondiale.
Ah, la liaison avec Abu Dhabi.
Liaison compliquée. Amandine Bouchard donc est sur le tatami. Elle est en demi-finale face à une Italienne. En quart, elle avait dû s'employer. Mais Amandine Bouchard va essayer de tenter de remporter son premier titre mondial. Un titre donc qui lui manque. Et une mauvaise nouvelle pour notre équipe de France aujourd'hui, puisque c'est la défaite de Lucas Meredze en 8e de finale de ses championnats du monde en moins de 60 kilos. Défaite face à un Japonais. Et justement, Morgane Maury a récupéré sa réaction juste après le combat. Écoutez.
Non, je pense pas, parce que malgré tout, j'ai fait quand même des bons résultats en 2023 et puis début d'année aussi. Je sais qu'à chaque fois quand j'ai fait un mauvais résultat, bon, ensuite j'arrive à revenir bien. Donc c'est ce que j'espère par la suite. Et maintenant, plus qu'à récupérer une semaine, et puis après, il reste moins de deux mois pour bien préparer les Jeux Olympiques.
Et oui, parce qu'il va essayer d'aller chercher une nouvelle médaille aux Jeux Olympiques, lui qui avait remporté une médaille de bronze à Tokyo. Et donc les championnats du monde continuent aussi toute la semaine, avec notamment mardi prochain l'entrée en lice de Clarisse Agbenienou, qui elle tentera d'aller chercher un 7e titre mondial.
Et on retrouvera évidemment Morgane Maury en direct d'Abu Dhabi un petit peu plus tard sur RMC. Autre grande tradition olympique française, un petit peu d'escrime, Léna, Yannick Borel qualifié pour les Jeux.
Oui, hier au Challenge Mona, l'étape de Coupe du Monde organisée à Saint-Maur-des-Fossés, l'épéiste français s'est incliné en quart de finale, mais ce résultat permet à Yannick Borel d'assurer sa place de numéro 1 français au classement des épéistes. Le voilà donc assuré de participer aux Jeux Olympiques de Paris, une immense satisfaction pour l'escrimeur de 35 ans.
Quatrième JO, et pour moi c'est une nouvelle opportunité d'être médaillé cette fois en individuel. Cette médaille, j'en parle beaucoup, mais je la veux vraiment. Je pense que sur le plan physique, j'ai pas mal de certitudes. Sur le plan technique, j'ai encore des choses à travailler. Ma tactique de match aussi, en dépendance de chaque adversaire, c'est sur ça que je travaille beaucoup. Et la chance qu'on a aussi, c'est qu'on saura assez rapidement le tableau. À peu près 2-3 semaines avant les Jeux, je vais pouvoir mettre en place le plan sur chaque adversaire que j'aurai en face de moi.
Et alors pour les Jeux, il reste encore 2 places à aller chercher en individuel, en épée. Romain Cannon et Alexandre Bardonnet sont les mieux classés. Eux ont été éliminés hier en 8e de finale du Challenge Monal. Ils devront donc attendre le 27 mai prochain pour connaître la sélection officielle pour les Jeux.
C'est votre JT de l'actualité olympique dans votre rendez-vous chaque week-end en route pour Paris 2024. On est avec Léna Marjac. Léna, Victor Wembanyama, c'est du basket évidemment. Il est de retour en France avant d'entamer la préparation pour le tournoi olympique.
Et oui, hier lors d'un événement organisé par l'un de ses sponsors à Nanterre, Victor Wembanyama est venu s'essayer un petit peu au football, mais aussi marquer quelques paniers devant des centaines de jeunes et tous admiratifs, hein, forcément, de la star du basket français. Le joueur des Spurs en a même profité pour dévoiler le nouveau maillot de l'équipe de France, parce que Wemby, eh bien, il a maintenant la tête tournée vers les Jeux Olympiques.
Quelque chose dont je rêve depuis très longtemps, les JO, même sans parler des JO en France. Donc ça sera beaucoup de plaisir, et je viens pour apprendre de ceux qui sont certains des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, et j'ai aucun doute que les responsabilités sur le terrain seront réalistes, et on veut utiliser toutes nos armes, et que mes coéquipiers seront prêts à me donner autant que de responsabilités que nécessaire. Mais je viens pas pour être le patron de ceux qui ont 5, 6, 7 campagnes dans les jambes.
Alors le programme de Wembanyama en vue des Jeux, donc il va retourner s'entraîner un petit peu à San Antonio avant le début donc de la préparation olympique le 17 juin prochain avec l'ensemble de l'équipe de France.
Il parle déjà comme un vétéran, la sagesse de Wembanyama, il ne veut pas être le patron, peut-être qu'il le sera malgré lui, hein, lorsqu'on domine autant des deux côtés du terrain. Léna, des qualifs pour les Jeux sont tombés en badminton, en bad, comme on dit.
En bad, et vous devez sûrement tous vous souvenir de cette fameuse erreur de calcul qui avait changé le classement en double homme. Lucas Corvée et Ronan Labarre, initialement qualifiés pour les Jeux, se sont finalement vus rétrogradés à la deuxième place française, derrière les frères Christo et Thomas Popov. Ce sont donc ces deux derniers qui verront les Jeux de Paris en double homme. Le Comité national olympique et sportif français a confirmé leur qualification cette semaine. Les deux frères avaient jusqu'alors gardé le silence dans cette affaire. Ils se sont exprimés cette semaine.
On reconnaît, enfin, de leur côté, que c'est très difficile, et on a aussi gardé silence. On voulait pas forcément s'exprimer parce qu'on attendait des informations. Ils sont exprimés, c'est normal. Tout le monde disait que c'était pour une erreur de calcul, ils y vont pas. Alors qu'au final, il y a aussi l'autre côté de l'inversion où, pour une heure de calcul, ils y seront allés, en fait. On est juste en stand-by, on voulait pas prendre de position. Et je veux dire, c'est complètement normal qu'eux défendent leur place. Nous, de notre côté, on a juste attendu, quoi.
Et alors, en plus du double homme, Thomas Junior Popov sera le représentant français en simple homme. Chez les femmes, Choufei sera aligné en simple dame. La paire Margot Lambert et Anne Tran en double dame. Et Jiquel Delru en mixte. Et donc, à noter, c'est la première fois de l'histoire que le badminton français est représenté dans chaque discipline lors de Jeux Olympiques.
Et on s'en félicite, évidemment. On suivra ça sur RMC. Léna, l'équipe de France masculine de basket 3 contre 3. Se rapproche, elle, d'une qualification pour les Jeux.
Oui, alors le chemin est encore long pour les Bleus. Qualifiés en quart de finale grâce à leur victoire contre le Canada, les Français du basket 3-3 ne doivent plus perdre s'ils veulent voir les Jeux de Paris. Alors à l'issue de ce tournoi de qualification olympique en Hongrie, 3 tickets pour les JO seront distribués. D'abord aux 2 équipes finalistes et puis à l'équipe vainqueur du match pour la 3e place. En clair, les Bleus doivent gagner leurs 2 prochains matchs pour s'assurer une place aux JO. Pas d'erreur possible. Prochain match déjà face à l'Allemagne. Ce sera tout à l'heure à 16h15. En quart de finale.
Bon, voilà.
J'espère qu'ils vont se qualifier.
Comme on dit dans notre jargon, chère Léna, évidemment, c'est votre JT d'actualité olympique en route pour Paris 2024. On poursuit avec du BMX. Léna, 3e titre mondial pour Joris Daudet.
Oui, alors il a dominé de bout en bout la compétition. Daudet remporte son quart de finale, sa demi-finale et donc la finale. Et le voilà avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. C'était des championnats du monde à Rock Hill aux États-Unis. C'est son 3e titre mondial après ceux déjà acquis en 2011 et 2016. Et puis un deuxième Français vient compléter le podium, c'est Sylvain André. Il repart lui avec une médaille de bronze et donc à quelques semaines des JO, ses résultats sont plus que prometteurs. Un mot aussi d'athlétisme parce qu'un record de France de lancer de javelot est tombé au meeting de Fontainebleau. Le Français, alors j'espère bien le prononcer, Tupai a réalisé 86 mètres 11. C'est le nouveau record de France, mais aussi la 5e meilleure performance mondiale de l'année, et c'est un résultat synonyme de minima olympique pour le Tahitien de 24 ans. Et puis nos lanceurs sont en très très grande forme puisque Tom Rux en lancer de disque a réalisé lui un jet à 67,91 m. Il pulvérise son record lors du meeting international de Fort-de-France en Martinique et il réalise lui aussi les minima olympiques.
Terai Tupaya, 86,11 m. Voilà, chacun d'entre eux, on lui posera la question sur RMC. On a le temps de progresser d'ici à l'ouverture des Jeux. Léna, des nouvelles de la flamme olympique, où en est-elle? Elle continue de sillonner nos contrées, nos villes françaises. Elle est passée dans le village du regretté Bernard Lapassé, décédé l'an dernier.
Et oui, Bernard Lapassé, ancien président de la Fédération française de rugby et surtout personnage important dans la candidature des Jeux de Paris. Eh bien, il a été mis à l'honneur ce matin lors du passage de la flamme. La torche s'est arrêtée dans le village de Louit, dans les Hautes-Pyrénées, village dont était originaire Bernard Lapassé. Et des membres donc de sa famille se sont relayés pour porter la flamme en son honneur. Et on continue avec l'actualité de la flamme parce que, eh bien, elle devait passer le 11 juin prochain en Nouvelle-Calédonie. Mais en raison du contexte et surtout des violences depuis quelques jours sur l'île, eh bien, l'événement a été annulé, a annoncé le gouvernement. Et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est exprimée sur ce sujet au micro de Valentin Jamin.
On aurait voulu pouvoir partager ce moment-là. On sait aussi que voilà, d'ici le 11 juin, il peut y avoir des évolutions favorables et on le souhaite tous. Mais pour être prêt le 11 juin, en fait, c'est tout un compte à rebours et des opérations de prospection, de vérification, de filage qui doivent être opérées. Et les forces de l'ordre, les militaires aujourd'hui, sont occupés à rétablir le calme, rétablir l'ordre, priorité à la sécurité des habitants, priorité au retour au calme.
Une mesure, évidemment, dont on comprend les fondements. Léa, petit coup de projecteur dans En route pour Paris 2024 sur un sujet qui touche toutes les sportives et athlètes féminines de haut niveau, la gestion des cycles menstruels.
Mais oui, c'est un sujet très important parce qu'avoir ses règles peut avoir quelques conséquences dans sa pratique du sport à haut niveau. Il faut pouvoir intégrer donc les cycles menstruels à sa préparation aux compétitions et surtout cette année en vue des Jeux Olympiques. Et Maria Azé, reporter RMC Sport, est allée justement à la rencontre d'athlètes françaises. Écoutez.
Avoir ses règles pendant les Jeux Olympiques.
Normalement, je suis censée ne pas les avoir aux Jeux.
Inimaginable pour la gymnaste Colline Desvillard.
Moi, mes règles, elles sont pas simples. Déjà, moi, je les ai une semaine entière, donc ça va être du lundi au lundi. Je perds beaucoup de sang. Des fois, je vais avoir hyper mal aux ovaires.
D'autant plus lorsque l'on pratique la gymnastique.
Nous, à la gym, on est en justo. En général, avec les filles, on essaie de savoir qui va avoir ses règles quand, pour qu'on sache quelle couleur de justo on va mettre, pour que la personne qui a ses règles soit le plus à l'aise possible.
Pendant sa période de règles, la grimpeuse Capucine Viglione, elle voit sa sensibilité décuplée.
Si je fais une mauvaise séance, ça prend tout de suite des proportions. Enfin, je vais me mettre à pleurer à l'entraînement.
Alors difficile d'imaginer les avoir pendant une grande compétition comme les Jeux Olympiques.
Vu que je suis plus sensible quand j'ai mes règles, ça me gênerait vraiment au JO parce que la pression, parce que les émotions autant positives que négatives, du coup tout devient un trop.
Juliana Antero est chercheuse à l'INSEP et a mené une étude sur l'impact des règles sur la performance sportive.
Ce que nous avons pu observer, c'est que les cycles menstruels ont un impact important sur le bien-être et l'entraînement des sportifs.
En France, une femme sur deux souffre de règles douloureuses, alors pour les athlètes, il faut trouver des solutions.
Dans l'idéal, les athlètes devraient avoir un cycle en telle bonne santé qu'il n'impacterait pas leur performance. Mais si elles ont beaucoup de douleurs, dans ces cas, on va considérer cela pas comme une fatalité, avec peut-être un suivi médical ou un accompagnement spécifique, pour que cela ne soit plus un problème.
Autre solution, la pilule qui régule les cycles dans la majorité des cas, mais qui peut aussi avoir son lot d'effets secondaires. Colline Desvillard l'a envisagé.
Je m'étais dit avant les Jeux, est-ce que c'est bien si je prends la pilule et tout, et je me suis dit, vaut mieux pas faire ça, parce que je sais pas comment je vais réagir à la pilule. Je me suis dit, je préfère avoir mes règles que avoir des changements d'un peu partout, je prends le risque.
Si les règles de Colline ne la mettent pas dans les meilleures dispositions, ce n'est pas le cas pour toutes les athlètes. La montée d'hormones peut aussi être un accélérateur de la performance. En 2003, Paula Radcliffe avait battu le record du marathon de Chicago alors qu'elle avait ses règles.
Merci beaucoup Maria Azé pour cet excellent reportage, un sujet évidemment d'une extrême importance pour les athlètes féminines de haut niveau. Merci beaucoup Léna pour cette page olympique plus que complète.